Les débuts de l'intelligence, première partie, chapitre 2, 3, les actes perceptifs. Immédiatement au-dessus de ces actes réflexes, se présentent dans le groupe trop confus des actes instinctifs, des actes que nous pouvons appeler des actes perceptifs. Les actes réflexes étaient déterminés par une stimulation sur les téguments et n'avaient pas d'autre effet que la modification de cette stimulation. Une irritation trop vive a lieu sur la peau, le membre s'écarte et cette irritation cesse ou diminue. Une lumière trop vive atteint la rétine et la pupille, en se resserrant, diminue la quantité de lumière qui entre dans l'œil. Les actions que nous appelons perceptives semblent déterminées par l'action des objets extérieurs et non plus simplement par des stimulations superficielles. Elles cherchent à modifier ces objets eux-mêmes, au lieu d'écarter simplement des stimulations sur la périphérie du corps. Un oiseau voit à quelque distance des grains sur le sol. Il s'en rapproche, les prend dans son bec et les mange. Un renard entend à distance le bruit que fait une poule ou sent l'odeur d'un lapin. Il court après la poule ou le lapin, les attrape, les tue et s'en nourrit. Un lapin, poursuivi par un carnassier, le fuit, court à son terrier et s'y réfugie. Dans tous ces actes, le point de départ est déterminé par un objet complexe, la proie alimentaire ou le terrier, et l'acte aboutit à une utilisation de cet objet et à sa transformation. Il y a adaptation à des objets, et non simplement à des stimulations superficielles. Il est vrai que cet objet détermine lui aussi des stimulations à la surface du corps. Au point de départ des actes précédents, il y a la vue du grain, l'odeur de la proie, la vue du terrier, qui sont des stimulations de ce genre et qui sont suivies de leurs réflexes primitifs. Mais ces objets ne déterminent pas une seule stimulation à laquelle l'animal se bornerait à s'adapter. L'objet en détermine un grand nombre. Le lapin, poursuivi par le renard, n'a pas seulement une odeur, il a un aspect visuel et surtout un goût quand le renard le mange. L'acte qui est déclenché par la stimulation initiale ne s'adapte pas seulement à cette stimulation, mais à toutes les autres que l'objet provoquera successivement. Il s'adapte à des stimulations qui n'existent pas encore, mais qui ne surviendront que plus tard, grâce à l'acte lui-même. Cette adaptation à un ensemble de stimulations futures est simplement possible, caractérise les conduites perceptives. Pour bien montrer ce caractère de l'acte perceptif et le rôle de l'objet, il est utile de revenir un peu sur l'acte réflexe et de remarquer combien il est insuffisant pour assurer l'adaptation vitale. Les actions réflexes sont petites, de peu d'étendue dans le temps et dans l'espace. Elles ne peuvent nous protéger que contre des dangers immédiats. Nous écartons le bras quand on nous pince, mais seulement quand le pincement est déjà sur notre peau. La main qui avance pour nous pincer ne provoque pas encore le réflexe d'écartement quand elle est éloignée de la peau. Une protection de ce genre arrive souvent trop tard et ne préserve pas de la blessure. Pour parer davantage au danger, il faudrait écarter le bras avant le pincement, faire une réaction préventive, ce que le réflexe ne semble pas capable de faire. Le réflexe, une fois déclenché, ne peut plus être arrêté ni modifié dans sa direction. Il ne peut s'adapter au mouvement, au changement de la cause offensive. Un individu qui tire un coup de fusil sur un oiseau ne l'atteindra pas s'il ne tient aucun compte des mouvements de l'oiseau. Le réflexe ressemble à ce coup de fusil. C'est une bombe qui éclate immédiatement sans se préoccuper des changements qui ont lieu pendant l'éclatement. Aussi, l'action réflexe tend-elle à se compliquer, et dans certains cas, elle semble corriger ses défauts. Les réflexes peuvent se succéder l'un après l'autre d'une manière utile quand ils prennent la forme que l'on peut appeler celle des réflexes en cascade. Une première action réflexe détermine une modification du milieu. Cette modification amène un second réflexe qui amène lui-même une nouvelle modification et ainsi indéfiniment. S'il se trouve que cette série de modifications du milieu et cette série de réflexes soient bien coordonnées et se développent dans la même direction, un résultat pratique peut être obtenu. On peut représenter cette série de réflexes en cascade par la figure 1. Prenons comme exemple la série de réflexes provoqués chez un animal par la faim. Le trouble organique a déterminé une agitation, un déplacement du corps. Ce déplacement du corps a mis en face de l'œil un objet mouvant qui, agissant sur la rétine, détermine un second réflexe, le déplacement de la tête vers cet objet. Ce mouvement de la tête permet à un effluve d'agir sur l'odorat, nouveau réflexe de mouvement de tout le corps vers l'objet. Maintenant, notre animal court après sa proie. Ce mouvement met le museau de l'animal en contact avec cette proie. Ce contact détermine le réflexe de l'ouverture de la bouche et, à la suite, toujours en cascade, la mastication, la déglutition, etc. Grâce à cette série de réflexes en cascade, l'animal a pu se nourrir. Oui, mais à quelles conditions ? À la condition qu'il y ait une succession continue de hasards favorables. Il faut que le premier mouvement amène par hasard la vue d'une proie. Il faut que le second mouvement, déterminé par cette vision, amène une excitation de l'odorat. Il faut que l'acte réflexe déterminé par l'odorat amène un contact, etc. Pour que cette succession de rencontres se produise, il faut supposer un milieu excessivement favorable. On peut imaginer que la vie primitive se développe dans des mers remplies d'êtres vivants, où le moindre déplacement de l'animal amenait la vue et l'odorat d'une proie. Dans ces conditions, la vie a pu se maintenir par des réflexes en cascade de ce genre. Mais dans les circonstances moins heureuses, dans des milieux moins riches en proies nutritives, des hasards de ce genre ne se produiraient pas. Quel est le progrès nécessaire ? Il faut une conduite qui, à propos du premier réflexe, amène immédiatement tous les autres, comme si leur stimulation était donnée. Admettez, pour le moment, que ces réflexes soient réunis les uns avec les autres, comme on l'observe dans les réflexes conditionnels de M. Pavlov, et qu'il suffit de la première stimulation pour les déterminer tous successivement. Le chien de M. Pavlov salivait à l'odeur de la viande. Il salive maintenant en entendant un coup de sifflet, comme si le coup de sifflet évoquait, après son réflexe auriculaire propre, le réflexe de l'odeur de la viande. Ces réflexes successifs sont unis dans une même action perceptive d'ensemble qui produit, à la suite de la première stimulation, le même résultat qui n'était obtenu que par la série des stimulations successives. On peut représenter cette conduite d'ensemble qui remplacera la série des réflexes par la figure 2. Nous pouvons, avec M. Revaud-Dallane, donner le nom de conduite schématique ou de schéma perceptif à cette conduite d'ensemble qui amène, plus ou moins complètement ou en abrégé, cette série d'actions réflexes. Si nous laissons de côté les animaux sociaux chez lesquels ces conduites perceptives sont un peu différentes, on peut dire que la plupart des instincts des animaux sont constitués par des conduites schématiques de ce genre plus ou moins compliquées. Il est probable que chez le petit enfant, des conduites de ce genre remplacent vite les réflexes primitifs. Au début, il fait le mouvement de téter quand le mamelon touche ses lèvres. Puis l'acte de téter deviendra plus complexe, il contiendra des mouvements de la tête et des bras, et il sera déclenché par la simple vue de sa mère ou par un bruit particulier qui annonce la tétée. Le schéma perceptif est déclenché par l'une des stimulations qui joue un rôle dans l'acte total. on peut comprendre cette forme d'activité schématique en étudiant les erreurs très caractéristiques qui peuvent se produire dans son activation. Nous avons souvent étudié ces troubles des conduites perceptives sous le nom de trompe-l'œil. Il est intéressant de rappeler ce phénomène parce que nous aurons à le rapprocher plus tard de la conduite si intéressante du portrait. Le schéma perceptif, qui est lui-même très précis et très systématisé, est déclenché par une stimulation quelconque qui, au début, est très vague et qui peut faire partie de plusieurs objets différents. L'animal commence l'acte de la poursuite d'une proie déterminée à l'occasion du nombre qui passe sur sa rétine. Cela peut être très adroit et dans bien des cas, cela réussit. Mais cette ombre peut être celle d'un ennemi qu'il faudrait fuir ou d'un rocher qu'il suffirait d'éviter. Et l'animal commence tout de même un acte de poursuite qui peut amener sa perte. Ce trompe-l'œil est si fréquent et si important que l'homme est arrivé plus tard à l'utiliser. Il a remarqué que certaines stimulations particulières amenèrent chez lui la conduite perceptive en relation avec l'éloignement de l'objet. Lorsque deux lignes droites, au début parallèles, semblent converger ensuite vers un point, nous commençons à faire les actes de poursuite à une grande distance. L'artiste qui peint un paysage nous présentera des routes dont les deux bords ne restent pas parallèles, mais convergent vers un point du tableau. Nous aurons l'illusion de la profondeur et de la distance, et l'artiste aura utilisé pour nous procurer cette illusion les lois du trompe-l'œil. Ce petit phénomène du trompe-l'œil met bien en évidence la nature de l'acte perceptif qui consiste dans le déclenchement d'un acte schématique complet à propos d'une stimulation partielle. On peut dire que la vie psychologique d'un grand nombre d'animaux est composée d'un nombre considérable de ces schémas perceptifs qui constituent une partie essentielle des instincts. Sans doute, ils peuvent entraîner une foule d'erreurs qui ont été bien relevées par tous ceux qui ont fait des expériences sur ces instincts et qui ont montré les erreurs que l'on peut provoquer en déterminant chez l'animal une de ces stimulations qui, d'ordinaire, dépendent d'un objet déterminé, mais qui dans ces cas ne lui appartiennent pas. Sans doute, ces conduites schématiques devenues instinctives sont loin d'avoir l'efficience que nous verrons dans les conduites intellectuelles plus élevées, mais elles n'en sont pas moins bien supérieures aux simples réflexes. Elles permettent des conduites plus compliquées aux effets plus lointains. Elles procurent une adaptation permanente et rendent possible, au moins dans certains cas, une certaine régulation de l'action bien supérieure à l'explosion des réflexes.